Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h et deux débats désormais dans cette première demi-heure. Les ultras représentent-ils une menace pour le foot français? Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. On parlera aussi rentrée scolaire, c'est dans 10 jours. Et une question ce midi, pourquoi n'y a-t-il pas de passe sanitaire à l'école? On en débat à partir de 12h40. Avant cela, vous le disiez, le journal, mais aussi la météo. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Amandine.
Bonjour. C'est relativement calme sur l'ensemble du pays.
Relativement calme, mais avec encore beaucoup de nuages sur une large moitié nord, avec en prime quelques averses qui vont se déclencher du Loiret vers la région Grand Est. Évidemment, beaucoup plus de soleil au sud de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA, mais attention encore au vent et surtout à quelques orages sur les reliefs pour les températures entre 20 et 24 degrés pour la moitié nord et entre 25 et 30 degrés pour la moitié sud.
Merci Claire, à tout à l'heure. 13h pour une météo.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce tollé après ces incidents lors du match Nice-OM hier soir. La rencontre a dû être interrompue pendant plus de 45 minutes après des jets de projectiles et l'envahissement du terrain. Pathétique, titre Nice Matin, la bêtise est sans limite. Ça c'est ce qu'on peut lire dans la Provence. Et c'est aussi le sentiment ce midi des supporters marseillais.
Tout le long du match, les joueurs se sont pris les bouteilles sous la tête, dans les points de corner, tout ça. Et après ça a dégénéré, l'arbitre il aurait dû arrêter le match. Normalement, il y a un match à rejouer.
C'est quand même pas normal ce qui s'est passé. Même si la réaction de Payet, elle est anormale. Il faut rejouer sur un terrain, peut-être le leur même, mais à huis clos. Parce que même si on n'a pas repris le match, on peut nous imputer cela. Mais ils n'avaient plus la tête à ça. Il y avait trois joueurs quand même de toucher.
Après le match, on l'a perdu en soi. Hein. On perdait 1-0. C'est soit on le rejoue, soit ils perdent sur tapis vert. Mais ça, c'est aux instances de décider.
Parole de supporter marseillais au micro RTL d'Hugo Hamelin. Le parquet de Nice, de son côté, a ouvert une enquête. Pas d'interpellation ni de garde à vue pour l'instant. Bonjour Mickaël Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL. Alors, qui sont ces supporters qui ont envahi le terrain? Que sait-on d'eux?
Eh bien, ces individus appartiennent au groupe des Ultra Populaires Sud. Cette association a en fait pris le relais de l'ex-BSN, la Brigade Sud Nice, créée en 1985 et dissoute en avril 2010 par un décret du ministère de l'Intérieur après plusieurs incidents graves impliquant certains de ses membres. Ce qui n'avait donc pas empêché quelques anciens de la BSN de reformer un groupe ultra quelques années plus tard, au moment de l'entrée dans le nouveau stade de l'Alliance Riviera. En 2014, ils se signalaient par un premier envahissement de terrain à l'issue de la rencontre Nice-Bastia, alors que le gardien visiteur Jean-Louis Leca brandissait un drapeau corse sur la pelouse. L'année suivante, en désaccord avec la politique du club, certains d'entre eux quittaient leur tribune pour s'en prendre directement au président du gym, Jean-Pierre River, qui avait dû être exfiltré à la mi-temps d'un match. Les plus radicaux n'hésitent d'ailleurs pas non plus à faire une descente, hein, comme ils appellent ça, au centre d'entraînement des Aiglons pour intimider les joueurs quand les résultats ne suivent pas. Plusieurs membres des UPS ont déjà reçu des interdictions de stade et l'ancienne génération a fait place à une nouvelle qui semble encore plus incontrôlable.
D'où notre question tout à l'heure, puisque vous ne dites pas supporter, vous dites ultra, et la question visera les ultras. Les ultras menacent-ils le foot français?
Merci beaucoup Mickaël. Mickaël Lefebvre en direct depuis Nice. Bonjour Roxana Maracineanu. Merci d'être avec nous dans RTL Midi. Vous êtes la ministre des Sports, je le rappelle, et vous avez beaucoup et souvent combattu contre la violence dans les stades. Vous condamnez, j'imagine, ce qu'il s'est passé hier soir?
Oui, évidemment, les événements qui sont produits lors de ce Nice-Marseille sont d'une gravité extrême. Il ne peut pas y avoir de tolérance pour de tels actes et je soutiendrai évidemment toute action judiciaire qui sera entamée contre les responsables de ces actes inqualifiables. Alors j'ai vu que le parquet était déjà saisi et donc je suivrai avec attention ce qui va se passer au niveau de la justice, mais aussi au niveau de la Ligue, dont j'attends... Une réaction exemplaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer l'exemple, il faut montrer que ça ne peut pas se produire sur un terrain en France de tels actes de violence.
Alors la Ligue annonce que les deux clubs sont convoqués par la commission de discipline. Ça suffit, ça?
On verra la suite de l'enquête, ce qui va être décidé. Mais en tout cas, évidemment, je ne lâcherai pas Vincent Labrune et la Ligue, et aussi les responsables du club de Nice, puisque c'est au club qui accueille, d'assurer la sécurité de la rencontre, d'assurer la sécurité, évidemment, des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, de tous ceux qui se trouvent sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, au sortir de la crise sanitaire que nous avons vécue, avec les difficultés qu'ont rencontrées tous les clubs, au niveau des huis clos, au niveau des difficultés financières qu'ils ont rencontrées, l'État a été là pour les aider et j'attends vraiment d'eux qu'ils soient responsables dans ce retour. des matchs devant un public. On voit que ça peut créer d'énormes tensions aujourd'hui, comme on l'a vu hier sur le terrain. Et il faut qu'ils en soient, qu'ils soient prévenus de ça et qu'ils sachent y faire face.
Le club de Nice est responsable de ce qui s'est passé hier ?
En tout cas, le club de Nice est responsable de la sécurité qu'il doit assurer au niveau de cette rencontre, des contrôles qu'ils doivent assurer pour que les potentiels projectiles ne pénètrent pas dans le stade et bien sûr responsable aussi de la sécurité des gens qui sont sur le terrain. L'idée vraiment, évidemment, à chaque manifestation positive ou négative du public, c'est la première des choses, c'est de les empêcher de pénétrer sur le stade. Ça me paraît être une évidence, oui.
Madame la ministre, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'incident. Qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour que ça n'arrive plus ? Des sanctions plus fortes contre qui ?
Oui, mais là, on a quand même passé une ligne rouge qu'on n'avait pas passée. Hein. On n'avait jamais eu de tels actes à l'encontre des acteurs de jeu. Oui, quelques projectiles, mais là, se prendre une bouteille derrière la tête, on tire un corner et puis fêter un point sur le terrain avec les joueurs ou venir manifester son mécontentement à l'encontre de l'équipe adverse et être violent à ce point avec des joueurs, c'est du jamais vu, hein, j'ai l'impression. Enfin, je crois. Hein.
Il faut que chaque...
Là, oui, il faut être exemplaire, oui.
Il faut que chaque supporter soit retrouvé, identifié.
Oui, on a la possibilité évidemment d'avoir des sanctions personnalisées. Il y a des caméras partout dans le stade, donc on peut retrouver les personnes. Et puis aussi, moi je suis prête à rouvrir aussi le dossier des interdictions de stade plus importantes pour de tels actes, oui.
Et le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, qui a défendu hier ses supporters, ça aussi vous condamnez ?
Ah bah ceux qui ont été violents, oui. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse faire ça, qu'on salue son public lorsque ça s'est bien passé et qu'ils ont été là pour encourager, oui. Mais quand on est là pour gâcher un match, pour gâcher la fête et puis pour s'en prendre à l'équipe adverse, oui, on ne doit pas être félicité, effectivement.
Vous disiez « je serai intraitable ».
Ah bah je vais suivre de près ce qui va se passer. Ce n'est pas moi qui mets des sanctions, hein, c'est la Ligue. Et puis c'est la justice qui punit... les personnes qui agressent d'autres personnes. Mais voilà, mon rôle, c'est de suivre ça de près et je le ferai avec la Ligue et je le ferai autant que je pourrai avec la plainte qui a été déposée.
Merci beaucoup, Roxana Maracine, à nous d'avoir été avec nous ce midi sur RTL.
Merci.
RTL Midi.
Dans l'actualité également, cet appel lancé par plusieurs médecins après le décès d'un nouveau-né positif au Covid. On ne sait pas si c'est ce qui a provoqué la mort de ce bébé, mais les professionnels demandent aux femmes enceintes de se faire vacciner. Écoutez le professeur Olivier Piconne, il est membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
On a fait une enquête qui montre qu'avant qu'il y ait l'histoire du pass sanitaire, il y avait à peu près 30% des patientes qui étaient favorables à être vaccinées pendant la grossesse. Alors qu'il n'y a aucun argument pour être inquiet par rapport aux effets du vaccin, qui ont plusieurs avantages, ces vaccins. Le premier, c'est de protéger la femme enceinte contre une forme potentiellement grave de l'infection. Et l'autre chose, c'est que les anticorps produits vont passer à travers le placenta et vont protéger le nouveau-né pendant les premières semaines de vie. Voilà, donc il n'y a vraiment que des arguments pour être rassuré et pour encourager la vaccination.
L'appel du professeur Olivier Piconne, joint pour RTL par Agathe Landais. Vaccin, vous le savez, qui ne sera pas obligatoire à l'école. Le protocole sanitaire présenté par Jean-Michel Blanquer est toutefois loin de faire l'unanimité parmi les points de blocage, la différence entre élèves vaccinés ou non. Ceux qui ne le sont pas devront rester à l'isolement pendant 7 jours en cas de contamination dans une classe et donc faire école à distance. Emeline Plaquin est professeure d'anglais dans le Pas-de-Calais.
Le gros problème, c'est que des élèves en classe et des élèves à la maison ne vont pas avancer au même rythme. On ne peut pas demander la même chose à un élève qui est à la maison, qui n'a pas forcément les parents pour l'aider, pas forcément le matériel technologique, qui ne sait pas forcément l'utiliser. On a des moyens technologiques qui peuvent permettre aux élèves de déposer des vocaux sur des plateformes, mais ça ne remplacera pas la spontanéité que l'on peut avoir en classe.
Un propos recueilli pour RTL par Perrine Roguet. Bonjour Vincent de Rosier.
Bonjour.
On imagine que le gouvernement suit de près ce genre de commentaires, de critiques, tout comme d'ailleurs la mobilisation des antipasses.
Oui, à l'Élysée, il y a toujours cette crainte du mois de septembre, surtout que les manifestations ont rassemblé beaucoup de monde en plein cœur de l'été. Peuvent-elles s'amplifier ? Pour ça, il faut une étincelle et les risques sont nombreux. Colère des enseignants, on vient de l'entendre, des étudiants, des soignants aussi. aussi. Certains seront peut-être bientôt licenciés s'ils refusent de se faire vacciner. La grogne est là, mais elle est éclatée, se rassure un conseiller. L'exécutif veut donc tout faire pour éviter qu'elle devienne homogène. Emmanuel Macron, on le sait, a été extrêmement marqué par l'épisode des Gilets jaunes et une radicalisation violente, des antipasses, des antivax ou des anti-tout est prise très au sérieux au sommet de l'État et au ministère de l'Intérieur. Même si, rappelons-le, les violences sont restées très contenues pendant ces quelques samedis de manifestation et n'ont pour l'instant pas grand-chose à voir avec les débordements ultra-violents des Gilets jaunes.
Vincent Derosier du service politique de RTL, des antipasses qui le week-end dernier ont pris la défense de Didier Raoult, poussé vers la sortie par ses pairs. Eh bien ce matin, l'infectiologue montre du doigt le nouveau directeur général des hôpitaux publics de Marseille. Il est là, dit Didier Raoult, pour faire le ménage et je fais partie des objets dont il voudrait faire le ménage. C'est un grand copain de Hirsch et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris qui a été épouvantable, eh bien il m'en veut beaucoup. Fin de citation. Dans le Var, l'incendiaire de 56 ans qui a volontairement mis le feu à une parcelle de forêt entre le Rayol et Cavalaire samedi dernier doit être déféré devant la justice aujourd'hui. Au moment des faits, il a été rapidement interpellé par plusieurs témoins. Il avait sur lui une bûche enflammée. Une information judiciaire doit être prochainement ouverte. Et puis en Grèce, l'accalmie n'aura été que de courte durée. Un nouvel incendie s'est déclaré aujourd'hui sur l'île d'Eubée, deux semaines seulement après celui qui avait ravagé le nord de l'île, de nouvelles évacuations sont en cours. Et puis Pascal, si je vous dis liquide, du liquide retrouvé dans un cubi de rosé, vous allez me dire c'est normal a priori.
Oui.
Bon, sauf qu'à Montauban, ce n'est pas du vin que les douaniers ont retrouvé dans ces cubis, mais des espèces. La suite, c'est Patrick Hisson qui nous la raconte.
Oui, quand le chien des douaniers de Montauban s'est intéressé avec insistance au cubis de rosé posé à l'intérieur du véhicule, eh bien les fonctionnaires pensaient y découvrir des stupéfiants, mais à leur grande surprise, ce sont des billets de banque emballés avec soin dans du film en plastique qu'ils ont extrait du cubis de vin. Un magot de 50 000 euros, faisant de ce rosé assurément le plus cher du monde. Jamais les douaniers de la région n'avaient été confrontés à ce type de cache en fouillant méticuleusement la voiture. Ils ont aussi mis la main sur d'autres billets retrouvés un peu partout dans l'habitacle pour un pactole total de 59 000 euros. Tout cet argent est vraisemblablement le fruit d'un trafic de drogue. C'est ce qu'a retenu le juge d'instruction. Il a mis en examen les 5 hommes qui avaient pris place à bord du véhicule et circulé entre Toulouse et Paris. Tous les 5 ont été placés en détention provisoire.
Récit signé Patrick Hisson pour RTL.
Deux débats désormais dans cette première demi-heure. Le premier, les ultras. Et je dis bien les ultras, ce ne sont pas les supporters. Et on va en parler avec Philippe Sansfourche. Les ultras représentent-ils une menace pour le foot français? Est-ce qu'ils ont en leur sein une agressivité, quelque chose de violent dont ils ne peuvent pas se débarrasser? À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
À l'instant, l'arbitre de la rencontre, M. Bastien, a sifflé la fin de la rencontre puisque seuls les joueurs de l'OGC Nice étaient sur la pelouse. Les Marseillais n'ont pas voulu reprendre la rencontre. Donc le score, le match s'arrête ici. Maintenant, ce sera aux instances de décider de ce qui se passera de cette rencontre. Mais on a vécu une soirée épouvantable ce soir.
Et pour ce premier débat d'RTL Midi, retour bien sûr sur ces incidents hier soir à Nice, un match contre l'OM qui vire à la bagarre générale. Et une question donc ce midi, les ultras menacent-ils le foot français? Face à vous, Pascal Praud, Philippe Sansfourche du service des sports de RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors les ultras, le mot il est important Pascal.
Il est important parce que ce sont des supporters extrêmes. Ce sont des supporters qui ont décidé que l'adversaire n'existait pas. Ce sont des supporters qui se moquent peut-être du football, mais préfèrent que leur équipe gagne. Donc on a, au sein de ce mouvement, une violence, j'ai envie de dire, par essence.
Alors, vous dites extrême, moi j'ai envie de dire passionné. C'est-à-dire que là, on est dans l'ultra-réaction, parce que dans ces cas-là, évidemment, on voit la violence, on ne voit pas tout le reste. Les ultras, ce sont effectivement la frange de supporters qui est le plus investi dans cette mission, entre guillemets. Et c'est aussi celle, il ne faut pas l'oublier, qui rend les stades magnifiques. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant la rencontre,
il y a discussion là-dessus. Au Parc des Princes, les ultras, on ne les a pas vus pendant 3 ans. Puis il y a des gens qui étaient très contents de ne plus voir d'ultras dans le stade parce qu'ils arrivaient avec femmes et enfants. Parce que ces groupes font parfois peur.
Oui, mais ce qui fait la diversité, la beauté et la puissance du football, c'est justement que dans un stade, quand on réunit 30 ou 40 000 personnes, il y a toutes les strates de la société. Et on ne va pas, j'ai envie de dire, jeter le bébé avec l'eau du bain à partir du moment où on prend en considération le fait que le football est un sport à part. Vous prenez, cet été, on a vécu des moments formidables avec nos sports olympiques. Mais nos volleyeurs, ils sont champions olympiques. Et pour autant, ils galèrent, entre guillemets, pour trouver simplement un diffuseur.
Il n'y a pas d'ultra dans le rugby, il n'y a pas d'ultra dans le volley. Il n'y avait pas d'ultra au foot dans les années 70 et 80. Les ultras, c'est un phénomène qui a une petite trentaine d'années. Hein.
Oui, mais c'est un phénomène qui est parfaitement géré dans d'autres pays, avec des cultures diverses. Vous prenez l'Allemagne, il y a une culture populaire énorme autour du football, avec des mouvements ultra, avec des organisations de spectacles. Il y a plus de 45 000 personnes par match, et il n'y a pas de débordement. Donc il faut aussi prendre
beaucoup
le football
d'incidents
parfois.
En France, à Marseille, à la Commanderie cette année, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Nantes, où un jour ils ont enterré le président du club. Quoi. Évidemment, c'était un enterrement factice. Donc, il y a beaucoup d'incidents régulièrement avec les ultras.
Et Philippe Sanfourche, on force trop le trait sur ces ultras, justement, enfin, quand ça déborde, c'est ça ?
Non, mais les incidents dont parle Pascal, ils existent. Il ne s'agit pas de les mettre sous le tapis. D'ailleurs, il y a un travail de fond qui est fait. Il y a eu une loi en 2016 sur l'encadrement des supporters avec le référent supporter qui doit être la courroie de transmission entre ces groupes ultras et le club. Il faut aller plus loin. En fait, la question, c'est d'identifier les fauteurs de troubles. Parce que le risque, c'est toujours de faire comme ce qui a été fait au Parc des Princes il y a quelques années, c'est de punir des milliers de personnes pour 150 fauteurs de troubles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens modernes dans les stades, la vidéosurveillance qui permet d'identifier ces fauteurs de troubles. Il faut simplement que derrière, d'un point de vue de la législation, les interdictions administratives de stades, Roxana Maracineau en a encore parlé, il faut peut-être remettre le curseur un petit peu plus fort sur les fauteurs de troubles pour permettre à ceux qui veulent vivre leur passion le plus intensément possible de le faire dans les règles.
Alors, il n'y a peut-être pas que les supporters ultra ou pas. On pointe aussi du doigt, et Roxana Maracineau nous d'ailleurs disait qu'ils étaient aussi sans doute responsables, les clubs. Écoutez ce que disait dès hier soir Jean-Pierre River, le président du club de Nice.
Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles à travers la tribune de nos supporters. Moi, je suis allé en tribune, j'ai vu mes supporters, je leur ai dit écoutez, c'est pas admissible ce que vous avez fait au niveau des jets de bouteilles, mais par contre, garantissez-moi qu'il n'y aura aucun problème. Ils me l'ont garanti deux fois et je pas de souci avec ça, je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. Malheureusement, les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match.
C'est irresponsable ces propos, Pascal Pro.
Disons les choses, il est otage de ses ultras. S'il entre en conflit avec ses ultras, c'est la guerre pour lui, un président de club.
Mais quand vous dites ça, Pascal, c'est sans fin du coup,
mais
non ?
Il y a un effet pervers. Le président d'un club est otage de ses ultras parce que s'il se met ses ultras à dos, ils vont lui faire la guerre au quotidien.
Il est otage Philippe d'un groupuscule de gens ultra-violents qui viennent se greffer au mouvement ultra et qu'il faut effectivement éradiquer. On écoutait le journal, qu'on parle de choses diverses dans la société, d'une manifestation contre le pass sanitaire ou anciennement des gilets jaunes. Vous avez toujours des problèmes de violence qui viennent se greffer. C'est pas pour ça qu'on interdit le droit de manifester. On va pas interdire les gens de supporter aujourd'hui. Il faut pas punir les gens qui viennent au stade
le
pour vivre
supporter,
leur passion.
Le mot supporter, moi je le récuse. Vous dites le mot supporter, je le récuse pour ces ultras.
Ce ne sont pas des supporters.
C'est des je récuse, je trouve qu'il y a quelque chose dans leur attitude qui, même sur le plan sportif, ne me convainc pas.
Ça peut être ultra positif, comme ça peut être ultra négatif. J'en conviens, hier c'était plutôt négatif.
Alors la Ligue de foot indique que les deux clubs sont convoqués en commission de discipline, à la fois Nice et Marseille. C'est sérieux ça, une convocation en
commission ? Ce qui est incroyable, c'est qu'on ait pu imaginer que le match reprenne. La Ligue, hier soir, la Ligue aussi, elle est un peu prisonnière, elle est otage. Il y a un moment, tu peux pas tolérer ça. Tu dis, on arrête. Et d'ailleurs, le match aurait pu être arrêté bien avant cela.
On a, je pense, un prisme au niveau de la Ligue depuis maintenant quelques mois. Il est important parce que la crise sanitaire a amplifié la question financière et vous avez des clubs professionnels aujourd'hui qui se lèvent tous les matins en se disant comment je vais rembourser mes prêts. Le souci, c'est que Vincent Labrune a été mis au pouvoir par ses clubs pour justement les aider. Il le fait beaucoup, il le fait très bien, mais il ne fait que ça. Il est omnubilé par ça, il le fait très bien, mais aujourd'hui, la Ligue a besoin de se positionner, qu'il n'y ait pas un communiqué qui soit parti dès hier soir, ou ne serait-ce qu'une manifestation orale d'un positionnement par rapport aux actes dans les tribunes, Il y a un manquement, effectivement, à ce niveau-là.
Et la ministre a dit « je ne lâcherai pas Vincent Labrune tout à l'heure sur RTL ».
On a senti en filigrane qu'elle souhaitait peut-être un petit peu plus d'implication sur d'autres questions que le volet financier.
On pourra évidemment réagir pendant les auditeurs ont la parole sur ce sujet. C'est un sujet qui nous passionne. Ce n'est pas la première fois que nous l'avons ensemble, les ultras.
Sans doute.
Je veux dire, la décision de Robin Leproux de sortir les ultras du Parc des Princes avait eu un mérite, c'est d'être efficace. Et puis vous
il y avait eu un décès, manifestement. C'était, on avait passé un
si vous m'expliquez qu'il faut qu'il y ait un décès pour qu'on prenne ce type de décision,
et
Philippe...
C'était aussi une première et on a pu voir avec l'expérience qu'il y avait du bon et du mauvais. Je pense qu'on n'est pas obligé de punir des milliers de personnes.
Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir les deux avis. Ça sera le principe de ces débats contradictoires avec Amandine, avec Philippe Sanfourche, avec les membres de la rédaction. On va marquer une pause et évidemment, vous pourrez réagir tout à l'heure avec Laurent Tessier, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Ah,
Laurent
Tessier. Alors.
Bien sûr, 23 août. Il est né sous le signe de la Vierge. La Vierge est entrée dans le soleil. J'ai entendu ça ce matin avec Christine Haas. La pause, nous revenons à tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
On aura une rentrée scolaire la plus normale possible. Il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est ouverte.
Il n'y a évidemment pas de passe sanitaire à l'école. Ça, c'était la semaine dernière. Première sortie de Jean-Michel Blanquer à 10 jours de la rentrée. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a redit hier. Pas de passe sanitaire. Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL, nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour.
Pascal Praud, ça vous étonne, ça, pas de passe ?
J'ai le sentiment que ça étonne surtout le public. C'est-à-dire, pour les enfants, on peut le comprendre, mais on demande à tout le monde d'avoir un passe sanitaire et on demande aux profs de ne pas l'avoir. Donc on se dit immédiatement, est-ce que le gouvernement a peur d'une fronde des profs et qu'il cède ?
Marie Guerrier, le gouvernement a peur ?
Alors, le gouvernement a peur, je ne peux pas répondre tout de suite à cette question, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la Constitution qui parle. Et donc, les enfants, ils ont un droit à aller à l'école. Et elle doit être accessible à tous. La nation garantit l'égal accès de l'enfant à l'instruction. Et l'État a l'obligation d'organiser l'école et d'organiser l'enseignement public gratuit et laïque. Et il faut bien le faire avec des... enseignants. Mmh. Or, si on n'impose pas le pass sanitaire aux enfants, on ne va pas l'imposer aux enseignants. Il faut qu'ils viennent dans les établissements pour enseigner. Et il y a une deuxième chose, en fait, qui vient soutenir le ministère dans cette histoire, c'est qu'ils ont remarqué que les enseignants allaient très spontanément vers la vaccination.
On a des chiffres ?
En juillet. Alors, en juillet, il y a eu une enquête auprès des enseignants. 70% d'entre eux disaient... on est vacciné ou on va l'être. On aura des chiffres plus récents là qui vont arriver pour la rentrée. Donc il y a un mouvement spontané vers la vaccination. Donc voilà, le ministère se dit pas besoin d'aller imposer le pass sanitaire, encore moins d'imposer la vaccination. Bon, on reconnaît aussi dans les couloirs du ministère qu'on va pas aller braquer certains enseignants parce que là il faut qu'ils soient en classe devant les élèves.
Donc ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'une très large majorité des enseignants sont sans doute vaccinés, peut-être est-ce 80, peut-être est-ce 90%. Et ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, c'est que les 10% qui restent, on n'arrivera pas à les convaincre et on ne veut pas aller au combat.
Mais d'autant plus, est-ce qu'on en a vraiment besoin qu'ils soient tous vaccinés à 80,
90%? Alors oui, mais on a demandé...
Je vous rappelle que pour rentrer dans un restaurant, voilà, on doit tous être vaccinés.
Mais et le barman crainte... aussi ou le serveur du restaurant?
Alors ça, c'est un peu différent puisque dans les restaurants, dans les cinémas, c'est le lieu qui a été décidé comme... étant sous passe sanitaire. C'est-à-dire que c'est imposé aux usagers. Donc si c'est imposé aux usagers, on ne voyait pas comment ça ne pouvait pas l'être à ceux qui travaillent dans ces lieux. Là, le passe sanitaire, la vaccination, le passe sanitaire surtout, il n'est pas imposé à l'école parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début. L'école doit être accessible à tous, libre accès. Donc le lieu n'est pas soumis au passe sanitaire, donc on ne voit pas pourquoi il faudrait du coup pour les enseignants avoir le passe sanitaire. Voilà, c'est la logique. Ensuite, la crainte qui est la plus exprimée, c'est la circulation du virus chez les enfants, puisque là on parle du variant Delta qui serait donc plus contagieux chez les enfants. Or, les enseignants le disent eux-mêmes, c'est pas la crainte tellement pour eux, enseignants dans l'établissement, c'est la crainte de la circulation entre enfants et qu'ils ramènent le virus chez eux. C'est plus cette crainte qui s'exprime à ce moment précis, à quelques jours de la rentrée.
Pour la seconde année consécutive, les enfants vont rentrer à l'école avec un masque.
Tout à fait.
En et ça, intérieur, c'est un déchirement.
La grosse différence, c'est que dans la cour, ils l'enlèvent.
Ah oui.
Oui.
Alors que l'année dernière, ils l'avaient dans la cour.
L'année dernière, fin juin, vers le 15 juin, ils pouvaient enlever le masque. Mais par exemple, les lycéens, vous savez, qui ont été assez peu en classe, ou eux, ils n'ont connu leurs camarades que masqués l'année dernière, dans la cour. Là, la grosse différence, quand même, c'est
qu'ils vont pouvoir se voir.
Voilà, ils vont pouvoir se voir.
Oui, mais c'est un déchirement d'envoyer son enfant dès le CP, hein, on est d'accord. Hein, en maternelle, il n'y a pas le masque, mais dès le cours préparatoire, vous avez le masque. L'enfant, il a 6 ans. En cas de contamination dans une classe, la période d'isolement de 7 jours, donc école en distanciel, ne sera pas requise. Pour les élèves vaccinés, la même règle que pour le reste de la population a fait valoir le ministre.
Alors attendez, non, à l'école primaire, donc là vous parliez des enfants qui ont le masque à partir du CP à l'école primaire, là en effet, un cas Covid dans la classe, on renvoie tout le monde à la maison pendant 7 jours.
Parce qu'il n'y a pas de vaccin.
Vaccinés, non vaccinés.
Non, mais ils ne sont pas vaccinés.
Ah oui, ils ne sont pas vaccinés, bien sûr. Bien évidemment.
Donc en primaire, évidemment, en primaire, un cas positif, on ferme la classe. C'est dans le secondaire que ça change. En collège et lycée, un élève est positif, est déclaré positif. Là, l'établissement, son rôle, ça va être de dresser la liste des cas contacts à risque. Alors, les cas contacts à risque, c'est quoi ? C'est être en contact avec l'élève positif, sans masque, pendant plusieurs minutes. C'est
un contact. À la cantine, par exemple.
Donc, la cantine est le cas, voilà. Donc, ces cas contacts à risque, les parents vont être prévenus. Votre enfant est cas contact à risque d'un camarade de sa classe. Si l'enfant est vacciné, les parents peuvent attester, faire une déclaration, dire « mon enfant est vacciné et donc il va pouvoir continuer à aller en cours ». Mais je parle toujours de cas contact à risque, donc c'est un petit nombre, un restreint autour de l'élève positif, ça ne concerne pas toute la classe. Si l'enfant n'est pas vacciné, là, il doit rentrer chez lui 7 jours.
Écoutez, je découvre un peu ce que vous dites. Il y a un côté usine à gaz.
Alors,
parce que là, les enfants autour, quels sont les enfants qui sont autour dans une classe et pas toute la classe ?
Oui, mais
je suis d'accord avec vous, mais convenez que alors, le voisin, il est cas contact à risque, mais celui qui est à un autre endroit de la classe, il ne l'est pas.
Mais c'est comme dans la vie, Pascal. Il y a des cas contacts.
Dans la même classe.
Oui, mais au bureau, c'est pareil.
Ils ont leur masque et une classe.
Il n'y a pas de souci.
Vous connaissez la grandeur d'une classe, entre le mur, le
tableau. Il n'y a pas de souci.
Donc, ils ne sont pas en contact. Et vous savez qu'il y a dans des classes de collège ou des classes de lycée, des élèves qui ne se parlent jamais parce qu'ils forment des groupes, etc. Donc, c'est normal qu'on fasse la distinction. Portent leur masque, ils ne sont pas en contact direct, donc on fait une distinction. C'était déjà comme ça l'année dernière, les chefs d'établissement ont l'habitude, ils dressent des listings, ils ont des tableaux Excel, ils remplissent des cases, ça c'est déjà
acquis. Il y a juste quand même une différence entre enfants non vaccinés et vaccinés, à partir
de
12 ans.
À partir de ce moment-là, quand on est cas contact à risque, on fait une différence, mais comme dans la population générale.
Plus campagne de vaccination qui sera mise en place dans les collèges et les lycées pour les plus de 12 ans, mais j'ai envie de dire, ça c'est ce qu'on a connu nous. C'est-à-dire que moi je pense que j'ai été vacciné au BCG à l'école.
Oui, mais vous n'aviez pas le choix, c'était obligatoire.
Oui, ça, je vous le confirme.
Donc, voilà. Là, la différence, c'est qu'il y a le choix. Alors d'ailleurs, ça peut aller assez vite parce que les plus de 16 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Donc ça pourra très bien leur être proposé. Donc la rentrée, c'est jeudi, vendredi prochain, dans les lycées. Dès le lundi, ceux qui le souhaitent, par endroit, pourront être vaccinés parce qu'ils ont plus de 16 ans, ils prennent leurs responsabilités, j'ose dire. Mais alors pour les élèves plus jeunes, là, il faudra l'autorisation des parents. Donc ça va se mettre.
Un parent, hein.
Ah, c'est une bonne question, je ne peux pas vous
dire. Je crois que ça a changé,
il faut une autorisation. Il faut une autorisation parentale, et là, pour le coup, ça se mettra en place un peu plus lentement au collège.
Marie, merci, vous avez été exhaustive. Je n'ai plus qu'un regret en vous écoutant, c'est de ne plus avoir d'enfants qui vont rentrer la semaine prochaine.
Oh bah, parce que écoutez, j'en ai un CP qui va rentrer avec un masque.
Nous vous tiendrons informés, rassurés.
J'aurais eu vraiment les renseignements. Merci vraiment, et c'était très intéressant, très précis de vous écoutez, merci à Amandine. Il est 13h dans quelques secondes et les auditeurs vont pouvoir intervenir jusqu'à 14h30.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.